ma educación oriental. Je réduis totalement ce qui se
passe. Et si tout le monde dit au Bakanga, je pense qu'on peut, en combinant les deux, ministre et président, trouver une solution par rapport à ça.
Bonjour à tous et merci de votre fidélité à Radio Okapi, la fréquence de la paix qui vous accorde la parole. Dans un arrêt rendu mardi 8 septembre à Kinshasa, la Cour constitutionnelle, faisant suite à une requête introduite par la Commission internationale, électorale nationale indépendante, enjoint au gouvernement de doter la CENI de moyens nécessaires pour l'organisation impérative de l'élection des gouverneurs et vice-gouverneurs des 10 provinces avant toute élection des députés provinciaux sur toute l'étendue de la République. Certains observateurs estiment que cette recommandation constitue d'ores et déjà une conditionnalité pour la poursuite du processus. Une autre opinion pense que cela aura un impact négatif sur la suite donc de ce même processus. Qu'en pensez-vous ? Nous vous accordons la parole en direct. Vous pouvez intervenir au 081 890 7315 ou bien nous faire parvenir vos messages sur notre page Facebook. Héritier Sidiakala est à la technique, Pierrot et la Mégie à la réalisation et Julie Pesa Bongonda est au standard de cette émission coordonnée et présentée par J.R. Nguembo sous la supervision de Léonard Moulamba. Bienvenue à tous.
Parole aux auditeurs pour participer 081 890 63 15 ou par internet pa@radiokapi.net. Parole aux auditeurs, J.R. Nguembo.
Professeur Tshibangu Kalala, vous êtes analyste politique, nous vous recevons dans ce studio juste pour nous éclairer par rapport à cette actualité autour de l'arrêt qui a été rendu donc mardi 8 septembre à Kinshasa par la Cour constitutionnelle, faisant suite à une requête introduite par la Commission électorale nationale indépendante. Alors, au nombre de recommandations, il y a des recommandations notamment pour le gouvernement et d'autres recommandations pour la CENI. Aujourd'hui, nous allons nous atteler sur les recommandations du gouvernement, la Cour constitutionnelle qui demande ou qui enjoint au gouvernement de vouloir doter la CENI des moyens nécessaires pour l'organisation impérative de l'élection des gouverneurs et vice-gouverneurs des 10 provinces, ce avant toute élection des députés provinciaux sur toute l'étendue de la République. Alors, interprétant cet arrêt, certains observateurs redoutent que cela puisse constituer une conditionnalité, comme pour dire cela pourrait avoir un impact négatif pour la suite du processus électoral. Mais d'entrée de jeu, comment vous réagissez par rapport à l'arrêt et que répondez-vous aux uns aux autres par rapport à cette question que je viens de vous poser tout à l'heure?
Bon, merci JR pour m'avoir invité à cette émission. C'est vrai que je n'ai pas suivi tous les débats dans le pays à propos de cet arrêt.
Vous étiez à l'étranger.
J'étais à l'étranger, j'étais à Paris, je suis pratiquement rentré hier de Paris. Heureusement, je suis tombé sur le journal votre confrère, Le Soft, qui a publié hier en intégralité l'arrêt de la Cour. Il faut le féliciter, votre confrère Le Soft, ce qui nous permet aujourd'hui de savoir ce qui s'est passé. Très bien. Mais avant toute chose, Jérôme Nguembo, je voulais préciser pour les auditeurs de Radio Okapi que je vais porter ce matin exclusivement ma casquette de professeur d'université, enseignant du droit et d'avocat praticien du droit. Je ne veux pas rentrer dans les considérations de politique politicienne.
Voilà.
Il y a eu beaucoup de déclarations qui ont été faites à ce sujet concernant cet arrêt. C'est tout à fait légitime dans le contexte des nécessités des combats politiques dans une démocratie.
C'est le droit le plus légitime.
C'est tout à fait normal. Je ne rentre pas là-dedans. Mais je suis préoccupé par le droit, la manière dont la Cour constitutionnelle a dit le droit dans cette affaire ici, avant de répondre justement aux questions très précises que vous avez. Pour les auditeurs de Radio Okapi, parce qu'il faut faire un peu plus de pédagogie, qui n'ont pas eu l'occasion de lire l'arrêt de la Cour et qui n'auront peut-être pas l'occasion de lire les arrêts, je vais le résumer pour bien planter le décor. Alors, qu'est-ce que la CENI a demandé à la Cour constitutionnelle? Parce que tout est parti de là. La CENI a demandé deux choses à la Cour constitutionnelle. Et cela apparaît clairement dans l'arrêt. Première chose, la CENI demande à la Cour d'interpréter l'article 10 de la loi sur l'installation des nouvelles provinces, abrégé. cet article dit, pour les auditeurs, qu'on doit installer les nouvelles provinces dans un délai de 120 jours, c'est-à-dire 4 mois à peu près, donc à partir du jour où on a mis en place les commissions chargées d'installer ces nouvelles provinces. Donc on devait aller pratiquement au 13 ou au 14 août de cette année-ci. Deuxième chose, toujours dans la même lancée, demande également à la Cour d'interpréter l'article 168 de la loi électorale. Qu'est-ce que cet article 168 prévoit ? Cet article prévoit que, après les élections provinciales, on doit organiser l'élection des gouverneurs et des vice-gouverneurs dans un délai de 21 jours à partir de l'installation des bureaux définitifs des assemblées provinciales. Et donc, la CINI demande à la Cour d'interpréter ces deux articles de ces deux lois. Deuxième chose, ça, c'est on savait comment dire.
Juste une interprétation.
Oui,
interprétation.
Une interprétation. Mais pourquoi la CINI demande l'interprétation? C'est parce qu'elle se trouve devant une difficulté. Elle a publié un calendrier qui va au-delà de 120 jours. C'est ça le problème.
Tout à fait.
Elle s'est dit, mais alors, mais le calendrier que j'ai réaménagé ne respecte pas les 120 jours, on est allé au-delà. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Interpréter.
Ouais.
Voilà, interpréter. Voilà la difficulté. Deuxième chose, la CENI demande à la Cour de donner son avis. De donner son avis. Pas de décider, de donner son avis. Sur la poursuite du processus électoral telle qu'elle l'a prévue dans le fameux calendrier global du 15 décembre 2015. Donnez votre avis sur ce processus électoral concernant l'organisation dans le délai des élections provinciales prévues pour le 25 octobre, les élections qu'on attend. Jusqu'au jour, on ne les a pas encore dit s'il y aura le 25 octobre ou pas. Il dit, bon alors, donnez votre avis sur le processus électoral dans son ensemble, calendrier global, sur quel point, sur l'organisation dans le délai des élections provinciales prévues pour le 25 octobre prochain.
Donc, un avis consultatif.
Voilà, c'est tout. Voilà la demande de la CENI. C'est tout. Qui a saisi la Cour constitutionnelle. Ça, c'est la première partie. La deuxième partie, il y a le gouvernement qui est intervenu dans la procédure. Mais la Cour ne dit pas comment le gouvernement est entré là. Parce que le gouvernement n'est pas parti au procès constitutionnel, au contentieux constitutionnel. Il n'est pas parti. Mais on voit le gouvernement. Et sinon, oui, le gouvernement s'est exprimé. Bon, parce que pour dire ceci, je reviendrai là-dessus. Que le gouvernement dit, pour sa part, qu'il n'y a pas de règlement intérieur des assemblées provinciales. Qui sont conformes à la Constitution. Un. Deux. Et les bureaux définitifs des assemblées provinciales n'ont pas encore été mis en place. Et donc, il faut réaménager le calendrier électoral pour pouvoir surmonter cet obstacle en vue d'organiser les élections pour les gouverneurs et les vice-gouverneurs. Le gouvernement ajoute qu'il n'y a pas d'argent pour organiser ces élections. La CENI a demandé 10 millions de dollars, mais moi, gouvernement, je n'ai pas ces 10 millions de dollars. Ce n'est pas prévu au budget. Et puis, il y a des contraintes au niveau du trésor public. Cet argent de 10 millions de dollars, il n'y en a pas. Bon. Le gouvernement souligne, et ça c'est très important, Jérôme Guimbo, pour les auditeurs de Radio Capi, qui n'auront pas l'occasion de lire. Le gouvernement souligne qu'il y a l'anarchie dans toutes ces provinces, mais bon, qui ne sont pas actuellement administrées. C'est une situation qui frise à la mort de l'État, qui préjudice à la sécurité et à l'ordre public dans ces provinces. Cette situation préoccupante menace l'unité nationale et l'intégrité territoriale du pays. Ça, c'est le gouvernement qui le dit devant la Cour constitutionnelle. Et ça figure noir sur blanc dans l'arrêt, je suis en train de lire l'arrêt. Voilà. Et le gouvernement reconnaît, je cite la Cour, le gouvernement reconnaît la nécessité de recourir en attendant que la situation du trésor public revienne normale aux mesures transitoires exceptionnelles pour parer au cas de force majeure qui rend impossible, pour le moment, la réalisation des deux processus électoraux visés par le calendrier électoral. Ça, ce sont des déclarations que le gouvernement a faites devant la Cour constitutionnelle. Gérard Longuembo. Maintenant, qu'est-ce que la Cour répond? Je commence pour la saisie. La Cour dit que moi, Cour constitutionnelle, je ne suis pas compétente pour interpréter les lois. La Constitution ne me donne pas ce pouvoir-là. Et donc, on envoie la CENI. Disons, monsieur, vous avez toqué à une mauvaise porte. Moi, pour constituer, je ne suis pas là pour interpréter les lois, je suis là pour interpréter la Constitution. Or, vous me demandez, moi, d'interpréter les lois, vous avez toqué à une mauvaise porte, moi, je ne suis pas compétent. Jusque-là, c'est bien. Moi, en tant que juriste, je partage le point de vue de la Cour. C'est bien ça.
Il n'y a rien à reprocher à vous.
La Cour, ça, c'est magnifique.
Je dis non, la finalité de devoir consultatif.
Bon. Maintenant, s'agissant de l'avis sollicité par la CENI, la Cour dit, écoutez, moi, Cour constitutionnelle, je ne suis pas là pour donner des avis. La Constitution ne me donne pas le pouvoir de... Moi, je rends des arrêts. Bon. Mais écoutez, allez pour le calendrier, allez statuer sur le calendrier de manière indépendante, impartiale, qu'est-ce que vous pouvez faire? Pas de problème. Le problème grave, Gérard Longuembo, c'est qu'on peut se poser la question, qu'est-ce qu'elle a signé et allé chercher à la Cour constitutionnelle?
De l'attraper à la mauvaise porte.
Non, qu'est-ce qu'elle est allée chercher? On a des questions. Ou bien il y a des juristes à la CENI qui connaissent bien le travail et qui ont laissé passer une telle requête, alors là c'est très grave, ou bien il n'y a pas des juristes, des conseillers juridiques. Parce que la Cour constitutionnelle n'est pas là pour donner des conseils juridiques ou des conseils politiques à la CENI. La CENI n'a qu'à appliquer ses propres lois. Il y a une loi qui porte organisation de la CENI, qui lui donne des compétences. Si là, il y a un cas de force majeure, elle n'a qu'à constater, écoutez, moi CENI, je ne sais pas organiser les élections des gouverneurs et vice-gouverneurs, parce qu'il n'y a pas de bureau définitif des assemblées provinciales, eh bien, j'attends qu'il y ait ces bureaux définitifs et qu'on me donne l'argent, je vais organiser.
Ça fait là un point très. Est-ce que cette nébuleuse-là ne peut pas impacter sur le processus?
Mais, écoutez, cher Longuembo, moi, je suis désolé. Il y a des gens qui courent, qui cherchent à avoir des postes, mais quand ils sont là, finalement, ils ne savent pas ce qu'ils vont faire. Qu'est-ce que la CENI est allée chercher à la Cour constitutionnelle? La situation était très claire. Finalement, elle a été giflée par la Cour constitutionnelle qui l'a renvoyée. Finalement, qu'est-ce qu'elle a obtenu?
Mais quelle peut être maintenant la solution?
On va arriver à la solution. Maintenant, le problème de la vie, et c'est là où il y a un problème avec la Cour constitutionnelle. Après avoir bien dit que je ne peux pas donner des avis, je suis là pour donner des arrêts.
Mais
en disant oui, je vais donner l'arrêt. Mais en donnant l'arrêt, elle ne répond pas à la CENI. Elle s'adresse au gouvernement. Et c'est là où nous avons un véritable problème, sur le plan juridique, sur le plan technique. Cet arrêt, Germain Gimbo, est en conflit total avec le principe fondamental du droit, qu'on enseigne dans toutes les écoles de droit, que mes collègues professeurs à la faculté de droit à l'UQAM enseignent du matin au soir aux jeunes. C'est le principe qu'on appelle le principe dispositif. Le principe dispositif. Bon, c'est un terme un peu savant.
Non, mais les juristes...
Oui. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est son principe? C'est que le juge ne peut statuer que sur ce qu'on lui a demandé. Et seulement sur ce qu'on lui a demandé. Il ne peut pas aller en dehors. Là, il va statuer.
La Cour est allée en dehors de ce que de la requête pour l'obtenu.
Après avoir bien répondu à la CENI, là, il s'occupe du gouvernement. En disant, moi, Cour constitutionnel, j'ai un pouvoir de réguler la vie nationale, le fonctionnement des pouvoirs publics, etc. Et donc, je statue.
Mais la Constitution ne le donne pas.
Mais le gouvernement, Gérard Longuembo, n'a rien demandé à la Cour. Le gouvernement n'est pas parti au procès constitutionnel, au contentieux, si jamais il y avait un contentieux. Il ne s'explique même pas comment le gouvernement s'est retrouvé dans cette affaire. Voilà. Et répond au gouvernement et lui donne même des injonctions. Donc la Cour a statué sur ce point en dehors de ce qu'on lui a demandé. C'est la CENI qui lui a demandé, chose. Mais le gouvernement ne lui a rien demandé.
Alors revenons à
ça. Et donc ça c'est très grave, sur le plan juridique, il y a la violation flagrante du principe dispositif.
Alors, on revient à la question que je vous avais posée tout à l'heure, parce que, bon, c'est des levains étirés, maintenant, tout le monde sait que l'arrêt est inapplicable, il y a des recommandations pour le gouvernement, la Cour constitutionnelle demande au gouvernement, ou enjoint au gouvernement, de donner la CENI, de doter la CENI des moyens nécessaires pour l'organisation impérative de l'élection du gouverneur et vice-gouverneur des 10 provinces avant toute élection des députés. Alors, certains observateurs estiment que ça constitue une conditionnalité qui peut sans bloquer la suite du processus. Rapidement avant qu'on ouvre là.
Oui, mais c'est vrai, parce que c'est ce que je viens de dire. La Cour a débordé le cadre civil. La Cour s'est occupée des questions politiques. Or, les questions politiques ne sont pas justiciables. Les questions politiques ne sont pas jugeables. Elles ne sont pas justiciables. Et donc, on ne devait pas s'occuper de commencer à donner des injonctions, des recommandations, en usant de certains pouvoirs de régulation qui n'est prévu nulle part.
Nulle part, ni dans la Constitution, ni.
Ce pouvoir, je vois, usant de son pouvoir de UL, quel pouvoir de régulation, et qui lui a donné ce pouvoir de régulation. Et donc, en ce moment-là, la Cour semble avoir fait une déclaration politique au lieu de rendre une décision judiciaire fondée sur le droit. Et donc, ça pose énormément de problèmes.
Oui, son nom, 75, pour votre intervention en direct. Voilà, donc nous allons prendre rapidement, je crois qu'au niveau de la réclamation, on allait nous proposer quelque chose. On prend Maître Adrien qui est à Kananga et Michel à Matadi, et Maître Sonville à Lumbashi. Maître Adrien, bonjour.
Oui, bonjour, Gilles Lungembo. Bonjour au professeur Chibangu Kalala.
Alors, Maître Adrien, on doit être précis quand même par rapport à la thématique du jour pour permettre à ce que nous évoluions avec tous les auditeurs. Hein. La question que nous avons posée aujourd'hui, est-ce que vous pensez, comme certains observateurs, qui estiment que cette recommandation à l'endroit du gouvernement, donc la Constitution qui enjoint au gouvernement de doter la CENI des moyens nécessaires pour l'organisation impérative de l'élection des gouverneurs et vice-gouverneurs, et qui constitue, pour certains observateurs, une conditionnalité qui peut même créer impacter sur la suite du processus. Quel est votre point de vue?
Merci beaucoup, JR, de la parole que vous m'accordez. Je pense que je partage entièrement ce point de vue donc, de nos amis là-bas, que je me suis dit, c'est comme si la Cour constitutionnelle a mis donc, le charia avant le bœuf. Nous nous sommes posé des questions de savoir pourquoi donner de telles injonctions au gouvernement, parce que nous savions très bien que les découpages médias effectifs, certes, mais quels sont ces députés-là qui vont élire les nouveaux gouverneurs? C'est comme ça que personnellement je me suis dit, pourquoi la Cour constitutionnelle, c'est vrai, avec toutes les irrégularités soulevées par le professeur Chibangu Kalala, parce que ça ne demande aucun débat là-dessus, tout le monde s'est rendu compte que la Cour a fait la honte. C'est comme ça que nous disons que pourquoi la Cour ne devrait pas demander au gouvernement de commencer d'abord par organiser les élections provinciales pour régulariser la situation et enfin de revenir aux élections des gouverneurs. Parce que dans les cas sous examen, l'ex-province du Kasaï occidental était scindée en deux. Il y a la province du Kasaï central et la province du Kasaï. Ces députés-là étaient élus dans l'ancienne province du Kasaï occidental, au jour d'aujourd'hui. En vertu de quelles dispositions légales, les députés de la province du Kasaï vont élire un gouverneur. Donc c'est déjà un problème. Deuxièmement, c'est là que nous autres nous demandons au gouvernement de ne pas vraiment utiliser abusivement cet arrêt de la Cour constitutionnelle, parce que bien que cet arrêt a des problèmes, mais dedans, ce qui me fait plaisir, la Cour insiste pour qu'on puisse respecter la Constitution et la loi de programmation. Or, lorsque nous lisons les deux lois, nulle part on parle de nomination, mais on parle des élections. C'est comme ça, nous sommes en train de demander au gouvernement pour qu'ils puissent vraiment utiliser à bon escient cet arrêt pour ne pas plonger davantage la Cour constitutionnelle dans la crise, parce qu'au jour d'aujourd'hui, il y a un sérieux problème qui se pose. Pour
voilà. Finir, j'ai... Oui, rapidement, maître Bria.
Oui, je réponds maintenant rapidement à la question donc, du professeur Thibault Widi. Qu'est-ce que la CENI est allée faire à la Cour constitutionnelle? Mais la CENI est allée jouer, est allée faire le jeu de l'une des parties. Donc, pour ne pas citer le gouvernement, parce que comment la CENI pouvait se donner le luxe d'aller saisir la Cour constitutionnelle et pourtant
nous avons compétence.
Une situation là où la CENI, l'opposition et le gouvernement et la société civile se retrouvent pour régler toutes ces questions-là. Donc la CENI est allée faire le jeu du gouvernement.
Merci beaucoup, maître Adrien. Alors Michel, vous êtes à Matadi. Bonjour Michel.
Oui, bonjour, monsieur Gilles.
Voilà, on a fait des recommandations au gouvernement. On ne sait pas comment le gouvernement se retrouvait dans cette requête de la CENI. Certains observateurs estiment que cette recommandation constitue déjà une conditionnalité qui va empêcher la poursuite du processus. Est-ce que vous partagez cet avis?
Moi, je pense d'abord que pour l'intérêt de la nation, ce que la Cour constitutionnelle vient de faire là, c'est trop grave, mon frère. Voilà, dans des pays démocratiques, moi, je solliciterais à notre Assemblée nationale, qui puisse d'abord faire des motions pour qu'aucune enquête soit faite en tenant compte d'essayer un peu de voir les comptes bancaires de ces juges qui ont siégé pour cet arrêt. La réalité n'est pas dans ce que nous sommes en train de débattre. Vous savez, les démembrements, les découpages que nous sommes en train de parler aujourd'hui, moi je crois notre gouvernement doit d'abord se poser la question. Pourquoi nous sommes en train de découper? C'est ça la grande question.
Oui, Michel, on avait parlé déjà du démembrement le vendredi. Aujourd'hui, nous voulons un peu évoluer parce que c'est vrai, nous restons dans la recommandation de la Cour au niveau du gouvernement. Alors, cette recommandation, d'aucuns craignent que cela puisse avoir un impact, c'est-à-dire que ça puisse empêcher le processus électoral se poursuivre normalement. Voilà, donc hésitons de revenir encore sur les thématiques que nous avons évoquées, parce que demain nous reviendrons encore sur l'arrêt, mais dans un autre format, c'est-à-dire la requête dans son ensemble de l'ingouvernabilité avec d'autres questions.
Mais mon frère, je vous dis déjà que sans effet. Pourquoi? Parce que tout ça, ça se passe sous base de calculs. Quelqu'un qui voit déjà loin peut déjà imaginer d'où nous sommes venus et où nous allons. Vous savez, mon frère, nous avons eu déjà un problème avec notre Assemblée nationale. Donc, il y a eu déjà un plan. Donc, nous ne pouvons même pas débattre, arriver jusqu'au démembrement, au découpage, si nous ne voyons pas ce qui s'est passé dans ces plans. Il y a d'abord une majorité qui a fait ses calculs. À l'Assemblée nationale, il a dit toi qui vas faire passer la loi électorale avec son article de série de censement. Au gouvernement, toi qui viendras avec la rubrique du découpage. Et vous allez financer pour qu'enfin nous ne puissions pas avoir l'élection présidentielle. La CENI, toi qui vas nous bomber les calendriers des élections, qui va y mettre même les élections du chef de village, pour qu'enfin nous ne puissions pas avoir un budget. Avec ça, nous n'aurons pas à organiser les élections. Et la Cour constitutionnelle, toi qui viendras nous donner les faits verts pour que tout cela soit fait. Commençons d'abord par là. Pendant ce temps, nous ne pouvons pas nous plier devant cette décision d'abord. Vous savez, aujourd'hui, je peux vous poser la question. Ce qui ne peut pas se faire, je pose à l'invité. Est-ce que vraiment le découpage en ce moment, c'est une opportunité par rapport à ce qui nous attend? C'est ça le problème. Moi, je pense, commençons d'abord à réfléchir là. Je veux que vous m'entendez.
Allez-y, Michel.
Oui. C'est pourquoi moi, je demanderai à notre gouvernement. Il peut revenir comme mon ancien est revenu. Il peut revenir comme Tshisekedi est revenu. Pour la vie de la nation, parce que la Cour elle-même, à la fin de sa citation, elle a dit « envie d'éviter le chaos ». Mais comment une décision qui veut éviter le chaos, il va nous introduire dans ce chemin? Moi, je crois que c'est sur un pays. Je crois que si nous voulons aider la République, écartons-nous aux calculs de la majorité. Ce sont des calculs diaboliques. Et pour cela, moi, je comprends. Je sais que nous sommes des chemins. Je sais que la Cour constitutionnelle, il y a des gens. Peut-être qu'ils ont risqué aussi pour prendre des décisions. Mais nous ne pouvons pas empêcher la République de tomber dans ce chaos parce qu'il y a des gens qui proposent.
Merci beaucoup, Michel. Donc là, je comprends bien. Vous partagez le point de vue, ce point de vue donc de vos prédécesseurs qui estiment aussi que cela pourrait avoir un impact négatif pour la suite du processus. Maître Sonville, vous êtes à Lubumbashi. Bonjour, Maître Sonville.
Bonjour, Monsieur Gire. Bonjour à tous les membres d'auditeurs de Radio Kati. Bonjour aussi à notre invité, le professeur Chibang Kanana.
Alors, comment commencez-vous
par rapport, par rapport à la thématique, j'estime que ça peut impacter négativement au processus électoral. Pour ce que Monsieur Gire, la Cour constitutionnelle a comme prérogative le contrôle de la constitutionnalité des lois et des actes ayant force des lois. Elle ne peut en aucun seul cas passer outre ces prérogatives-là et commencer à enjoindre le gouvernement et la CENI. De par cette recommandation-là, cette Cour a ouvert une brèche à un éventuel report des élections tendant à nous entraîner au mauvais d'être du moment, doucement. Là, le peuple congolais ne va pas céder. Qu'est-ce qu'il y a, M. Gilles? Il y a un bénéfice d'urgence. Moi, je ne comprends pas comment cette Cour peut demander même à enjoindre au gouvernement de prendre des mesures transitoires exceptionnelles. Que la Cour puisse expliciter. Il y a un flou. Alors, la Cour s'attend à une certaine nomination des hauts fonctionnaires parce que les candidats du gouvernement du pouvoir ne vont pas passer comme gouverneur, ne pourront pas passer comme gouverneur dans les nouvelles provinces. C'est connu. Maintenant, quel est le calcul? Maintenant, c'est la Cour qui vient d'entrer en danse ensemble avec la CENI. Pour ne pas dire que les élections des députés provinciaux, selon les candidats publiés par la CENI en février 2012, risquent de ne plus avoir eu lieu, si écart à l'arrêt de cette Cour. Ce qui est là, il faut qu'on respecte la Constitution. Le respect de la Constitution doit être absolu, monsieur Gilles. Pour asseoir une bonne démocratie, il faut respecter la Constitution. Moi, j'estime que c'est une démarche démoniaque. C'est-à-dire que le peuple va se ranger comme un seul homme pour barrer la route à cette énième tentative de violation de la loi fondamentale. Donc, la Cour vient aussi d'entrer en danse, je le répète. La Cour ne peut en plus engendrer. Il y a un discours, il y a un agenda caché. Le peuple a besoin d'une alternance. Or, l'autorité budgétaire, qui n'est autre que le Parlement, a prévu un budget prévisionnel de 800 millions de dollars jusqu'à la fin du premier trimestre de 2015. Où loge cet argent? Le Premier ministre doit être interpellé par cet organe qui a péri à la demeure pour se justifier. Au cas contraire, ce gouvernement est appelé à démissionner. Parce que ce gouvernement s'appelle priorité économique. Ce gouvernement s'appelle croissance macroéconomique. Où on mettra cette croissance quand le Premier ministre dit qu'il n'y a pas l'argent pour organiser ces élections-là? La CENI n'a pas besoin de 10 millions. C'est de simple slogans. Le premier gouvernement doit démissionner, M. Gilles, par le principe de l'honnêteté intellectuelle, afin de ne pas traîner le pays vers le cul de sable, le cul de sable. Il a échoué sur tous les plans, sinon c'est du théâtre du chenil. Nous demandons aux décideurs de cesser de se moquer de cette pauvre population qui souffre tant. Le gouvernement ne doit pas faire de cette acte une opportunité pour gêner les scrutins. La CENI n'est plus en mesure de garder l'ensemble de ces scrutins prévus dans ce calendrier global, alors qu'on priorise les élections provinciales, législatives et présidentielles. Tout ce que M. Gilles nous disons ceci, je fais partie de cette population qui dit, d'après la disposition 64, tout Congolais a le droit de faire échec à tout individu ou groupe d'individus qui prend le pouvoir par la force et qui négocie en violation des dispositions de la présente constitution. Là, ça ne va pas aller. Nous demandons à la Cour de respecter dans ses prérogatives, puisque aucun Congolais n'est indispensable dans ce pays, mais tous les Congolais sont importants. Nous voulons l'alternance, qu'on respecte les calendriers globaux, qu'on respecte la Constitution. Ni la Cour constitutionnelle n'est pas au-dessus de la Cour et de la Constitution. Nous sommes tous assujettis à cette Cour, cette Constitution-là.
Merci beaucoup, Maître Sonville, d'avoir appelé de Lubumbashi. On va prendre Maurice. Maurice est à Kinshasa. Bonjour, Maurice.
Oui, bonjour, Gérard Manguil.
Maurice, nous, en fait, on n'interprète pas, mais nous analysons juste les observations des uns et des autres. Il y a la recommandation de la Cour constitutionnelle à l'endroit du gouvernement qui, en fait, demande à ce qu'on puisse, avant toute élection des députés provinciaux sur toute l'étendue de la République, qu'on puisse organiser ipso facto donc l'élection des gouverneurs. Alors, certains observateurs estiment que cette recommandation constitue une conditionnalité qui empêcherait la poursuite normale du processus. Est-ce que vous partagez cet avis?
Oui, je partage cet avis. Mais dans ce sujet, j'aimerais d'abord féliciter le professeur, notre invité du jour, pour l'explication en fait pédagogique liminaire qu'il nous a en fait développée. Et nous avions compris réellement que et à cette Cour constitutionnelle est vraiment dans la poche des individus. Nous devons rechercher d'abord les causes, avant même de parler des conséquences. Qui sont les causes ou qui est la cause de cette situation? Alors, la cause de cette situation, ce sont celles-là qui ont bloqué la situation. Alors, aujourd'hui, nous sommes en train de déplorer ces conséquences, pendant qu'au moment opportun, il y avait déjà des gens qui avaient décrié, qui avaient parlé de la précipitation qui a en fait caractérisé le découpage territorial. Alors, au regard des conditions qui en fait, n'étaient pas encore favorables pour procéder à ces démembrements, on était obligé d'arrêter en fait, ce processus. Mais ils se sont entêtés et ils nous ont fait comprendre qu'ils avaient des moyens conséquents pour procéder au démembrement des provinces. Alors, ils ont pu le faire. Alors, maintenant, s'ils se retrouvent que non, il n'y a pas de moyens pour faire fonctionner de nouvelles provinces. Et qu'il n'y a pas de moyens également pour, et non plus de temps pour organiser des élections de gouverneurs qui demanderaient que 2 millions de dollars américains. Donc, pour ceux qui pensent que le seul, plutôt la façon de conditionner les élections de gouverneurs avant toute élection, alors prouve effectivement qu'il n'y aura pas d'élection, parce que 2 millions qui manquent pour organiser les élections. Pendant que les élections qui vont être organisées au mois d'octobre nécessitent plus ou moins 800 millions de dollars américains. Alors, dites-nous, comment ils vont faire pour trouver ces moyens pendant que, alors que les 2 millions qui sont nécessaires pour l'organisation des élections de gouvernement, on ne peut pas, en fait,
le mobiliser.
Merci. Exactement. Par rapport même à la cause, comme je disais tantôt, ceux qui bloquent la situation, ce sont ceux-là qui sont capables de les débloquer. Ce n'est pas la Cour constitutionnelle qui a bloqué cette situation. Ce n'est pas la Cour constitutionnelle qui a produit des conditions qui nous amènent aujourd'hui au chaos. Ceux qui nous amènent au chaos, ceux qui bloquent la situation sont bien connus. Alors, les solutions aussi passent par ces gens-là. Je pense qu'au moment où nous sommes, ils doivent arrêter tout ce qu'ils avaient en fait entrepris à parler, plutôt par leur entêtement. Et ils doivent aussi devenir la voix de la raison. Alors, qu'est-ce qui doit se passer? Ils doivent suspendre d'abord, même retirer cette loi-là de programmation. De programmation portant en fait de mandement-là. Et passer maintenant à la suite en fait telle que voulue par les autres partis de l'opposition, comme les membres de la société civile. On vient par exemple de laisser le pays continuer dans ses chaos ici, qui arrange que ce soit. Alors voilà la raison que nous disons que tout passe par une solution politique. Et cette solution politique n'est pas parce que n'est pas toujours plutôt qu'attendre un dialogue inclusif.
Voilà, merci beaucoup Maurice. 081-890-6315 pour votre intervention en direct.
Radio Kati célèbre les 70 ans des Nations Unies avec ses auditeurs de Gonade dans Au Kati Service. Venez nombreux participer à deux grandes émissions, le mercredi 23 et jeudi 24 septembre 2015, de 10h à 12h dans la salle Linda. Au menu, le bilan des activités des Nations Unies en RDC, l'emploi, l'entrepreneuriat, bref, le développement social. Au Kati Service, en direct de Goma, c'est ce mercredi 23 et jeudi 24 septembre 2015, de 10h à 12h, dans la Salinda, avec jeudi Daniel Cacha.
Merci de rester à l'écoute de cette émission.
Voilà, merci de votre fidélité à Radio Kati. Si vous nous rejoignez, bienvenue dans Parole aux auditeurs, votre magazine d'échange citoyen. Et nous échangeons tout de suite autour de recommandations formulées par la Cour constitutionnelle à l'endroit du gouvernement de la République, donc pour que finalement celui-ci puisse trouver des moyens nécessaires pour l'organisation impérative de l'élection des gouverneurs et vice-gouverneurs des 10 provinces, donc des provinces nouvellement créées, avant toute élection des députés provinciaux sur toute étendue de la République. Vous avez suivi une panoplie des auditeurs qui en fait interprété à leur manière et l'arrêt et aussi cette recommandation qui en fait aujourd'hui toile de débat, certains conservateurs qui estiment que cette recommandation constituera un blocage, rien d'autre. Alors, professeur, réaction par rapport à ce que venaient de dire les uns et les autres.
Oui, c'est vrai. Cet arrêt pose un problème. D'abord, comme je le dis, il y a le principe du dispositif qui est en conflit total avec cet arrêt.
Mmh.
Deuxième chose, on peut voir d'une certaine contradiction. D'un côté, la Cour dit à la CENI, donc ordonne à la CENI, d'évaluer tout le processus en toute indépendance et en toute impartialité. Et donc, parce que c'est la CENI qui est le pouvoir organisateur de l'élection, qui fixe le grandeur en toute indépendance. Mais plus loin, la Cour dit qu'il faut qu'on organise les élections provinciales et générales après l'élection des vice-présidents. Et donc, en quelque sorte, la Cour donne l'impression que c'est elle qui fixe le calendrier. Donc, en contradiction avec la liberté reconnue à la CENI. Parce que la CENI peut évaluer en toute indépendance, dire que moi, ce n'est pas possible d'organiser les élections de gouverneur et vice-gouverneur, on ne peut organiser que des élections générales. Parce que c'est son pouvoir. Et donc, il y a un problème. C'est pour cela que je me disais que la Cour constitutionnelle s'est engagée dans une voie sans issue en voulant s'occuper des questions politiques qui ne sont pas justiciables. Et donc, il a provoqué une tempête.
Il a pour moi d'une voie sans issue, comme l'a dit un auditeur tout à l'heure. Je vais y arriver. Calculs déjà qui étaient.
Mais je vais y arriver. Et puis, vous êtes gentil quand vous dites que la Cour a donné des recommandations. Non, ce sont des injonctions, ce sont des ordres que la Cour donne. La Cour enjoint, etc. Enjoint au gouvernement. Alors que le gouvernement lui a rien demandé. Voyez-vous, il demande même qu'on notifie son arrêt au président de la République. Pourquoi faire, etc. Donc, c'est vrai qu'il y a, il y a un problème. Maintenant, comme on dit, c'est vrai que la Cour constitutionnelle, je suis d'accord avec Maurice de Kinshasa, ce n'est pas la Cour constitutionnelle qui a créé tous ces problèmes, tous ces retards, ce n'est pas la Cour constitutionnelle, il y a à peine une semaine que la Cour a rendu son arrêt.
Vous l'avez dit tout à l'heure, la CENI est allée faire quoi
là-bas? La Cour, c'est la CENI qu'il faut blâmer, c'est la CENI qu'il faut blâmer, c'est très grave. Parce qu'on lui donne, on dit maintenant, allez évaluer votre processus en toute indépendance. Alors, est-ce qu'il fallait.
Donc, c'est quoi, c'est la Cour faisait le postulat. Bon, moi, c'est pas mon affaire.
Oui, mais parce qu'il y a la loi qui organise la CENI qui donne des compétences à la CENI. La CENI n'a pas fait son travail correctement. C'est ce que la Cour dit.
Ce n'est pas un aveu de l'impuissance quand la CENI va déjà là-bas.
Mais qu'est-ce qu'elle est allée faire là-bas? Mais qu'est-ce qu'elle est allée faire là-bas? Parce qu'on lui a dit, allez respecter votre loi.
Mais l'avenir risque d'être pas meilleur par rapport au processus.
Je m'en doute.
Vous êtes analyste.
Quand je vois ce que la CENI a fait, on peut se demander, est-ce qu'il faut rire, est-ce qu'il faut pleurer? Une organisation aussi prestigieuse, qui est au centre de notre dispositif politique et constitutionnel, va s'adresser à la Cour, demander à la Cour d'interpréter des lois, alors que la Cour doit interpréter la Constitution. Alors que la Cour rend des arrêts, décide. La Cour, c'est une Cour de justice qui tranche, mais elle va demander un avis, sans en avoir qualité, alors que cela n'est prévu nulle part. On peut se poser la question, est-ce qu'il faut rire, est-ce qu'il faut pleurer? Mais maintenant,
oui.
La question qui est là, c'est-à-dire que quand la Cour enjoint au gouvernement, il est dans le domaine politique. Ce n'est pas une décision de justice fondée sur le droit. Elle invoque un pouvoir de régulation. Mais où se trouve ce pouvoir de régulation? C'est prévu où? Alors là, il y a un véritable problème, un précédent, et je dirais même un dérapage qu'il faut arrêter tout de suite. Il ne faut pas que demain, qu'on se trouve devant cette situation.
Alors, mais là,
il faut aller de là.
Mais ce qui est étonnant plus d'un, c'est que, après l'arrêt de la Cour, le gouvernement s'est réuni à une réunion extraordinaire pour déjà voir dans quelle mesure proposer ces mesures transitoires. Alors, l'automatisme avec lequel le gouvernement s'en va, parce que nous parlons du gouvernement, la recommandation, on se dit, est-ce que on peut donner raison à cet auditeur qui parlait tout à l'heure, parce que c'est à vous qui s'est adressé, tout à l'heure, d'un calcul déjà fait en amont?
Je ne veux pas rentrer sur ce terrain-là.
Oui.
Mais moi, ce que je dis, quand je vois l'arrêt, franchement, bon, ça pose beaucoup de problèmes. Le gouvernement, comme je l'ai dit au début, n'est pas parti à se contenter. Pourquoi on lui donne des injonctions? Qu'est-ce que la Cour est allée faire dans les jardins du Palais de la Nation avec une injonction à la main adressée au président de la République pour dire, oui, mettez de l'ordre dans les provinces? Mais non, on peut voir qu'est-ce qu'il faut faire. Écoutez, je vous donne un exemple récent. Il y a eu un désordre terrible dans les provinces de l'Équateur. Le gouverneur, l'Assemblée provinciale s'affrontaient du matin au soir. Les députés provinciaux se battaient, échangeaient de coups de poing, de coups de tête, etc., un des autres. Le fonctionnement normal des institutions provinciales de l'éducation était bloqué. Qu'est-ce que le président a pu faire? Il a pris une décision de révoquer le gouverneur pour débloquer la crise. Il a actionné l'article 197 de la Constitution. Et donc, il n'est pas passé par la Cour constitutionnelle pour dire, Cour constitutionnelle, dites-moi qu'est-ce que je vais faire dans la province des locataires parce qu'il y a des désordres là-bas. Il a exercé ses pouvoirs constitutionnels directement pour régler le problème. La solution, c'est quoi pour moi? Et ça, je fais des réflexions personnelles. Mmh. Je ne donne pas des conseils ou des propositions, que ce soit. Mmh. Des réflexions personnelles que je partage avec les auditeurs de Radio Okapi. Il y a trois solutions. La première, c'est le président de la République, chef de l'État. Deuxième solution, président de la République, chef de l'État. Troisième, président de la République, chef de l'État. Il y a l'article 69 de la Constitution qui donne le pouvoir au président de la République d'assurer l'unité de l'État, la continuité de l'État. Parce qu'il n'y a pas deux États dans ce pays, il y a un seul État qui a un chef, c'est le président de la République. L'article 69 est clair. C'est lui qui assure le fonctionnement régulier de l'institution. Ce n'est pas la Cour constitutionnelle. C'est lui qui assure l'unité de l'État, le fonctionnement régulier des institutions, qui assure la continuité de l'État. Mais bon, ce n'est pas la Cour constitutionnelle, c'est le chef de l'État, qui est l'organe suprême. Le président de la République, c'est la clé de voûte de notre système. Et donc, on ne peut pas aller donner des injonctions au président de la République par une institution subalterne, inférieure, qui lui mettait de l'ordre. Le président de la République, c'est l'homme le mieux informé de la République. Il sait ce qui se passe dans les provinces. Et donc, il actionne l'article 69. On n'a pas besoin de faire un long voyage par un détour de la Cour constitutionnelle qui doit venir donner des injonctions, demander qu'on signifie son arrêt au président de la République pour qu'on mette de l'ordre dans ses provinces. Ben, j'ai mon démon. On peut se demander s'il faut rire ou s'il faut pleurer devant ce type de situation. Et donc, pour moi, c'est le président de la République qui a les clés en main.
Et la clé, c'est l'article 69.
C'est la Constitution. Vous vous imaginez que le président de la République dise bon, « Je vais exécuter l'injonction de la Cour constitutionnelle. » Mais on est dans quel monde, là? Un subalterne qui donne des injonctions à son chef?
Dès lors que l'arrêt de la Cour est inattaquable, et voilà, donc ça n'appelle même pas débat, je crois que c'est les vins tirés, comme là le voir.
C'est pour ça que je vous ai dit, on peut se demander s'il faut rire ou pleurer devant cette chose.
Voilà,
donc pour moi,
oui,
la solution personnelle,
c'est l'article 69,
c'est le président de la République qui n'a pas besoin d'un arrêt de la Cour constitutionnelle pour agir, pour mettre de l'ordre dans les provinces. Il y a une situation de blocage que le gouvernement a bien présentée. Le gouvernement a bien présenté la situation devant la Cour constitutionnelle. Mais justement, ce n'est pas à la base qu'il fallait présenter cette situation.
Voilà.
Mais c'est fait, la situation est connue, il y a un désordre terrible dans ces provinces, elles ne sont pas administrées depuis plusieurs mois. Et bien non, c'est le chef de l'État, parce que c'est son État qui est concerné, c'est le chef de l'État qui doit agir, il n'a pas besoin de la Cour constitutionnelle qui lui dise ce qu'il faut faire. L'article 69 est clair, il faut le mettre en mouvement pour mettre de l'ordre. S'il faut nommer, moi je l'avais déjà dit au cours d'une émission ici, pour moi il faut nommer des gouverneurs faisant fonction. C'est mon point de vue personnel. Il faut nommer de toute urgence des gouverneurs faisant fonction. En attendant l'organisation des élections provinciales. Pour ce qui est des élections des vice-gouverneurs et des gouverneurs, mon point de vue personnel, c'est que ce sont des élections stupides. Bon. Il ne faut pas gaspiller de l'argent. On parle de 2 millions. Même si ce n'était que 10 000 dollars, même 5 000 dollars, on ne va pas organiser des élections le matin. Pour l'après-midi, organiser les mêmes élections pour élire des gouverneurs définitifs qui auraient un mandat de 5 ans. Parce qu'on ne nous dit pas, ces gouverneurs-là, provisoires,
ils ont quel mandat,
on va les élire pour quel mandat de 5 ans. Parce que la Constitution dit que c'est 5 ans. Bon, on va les élire pour quel mandat de 2 mois,
juste
de 3 mois.
Transition, ça peut faire une semaine.
Oui, mais vous voyez l'argent qu'on va dépenser. Parce que ces gouverneurs, une fois élus, ils doivent avoir un programme de gouvernement. Ils doivent se présenter devant les assemblées provinciales, faire approuver leur programme, faire investir leur ministre. Le président doit prendre une ordonnance pour investir ses gouverneurs, pour que les choses commencent à marcher, pour combien de temps? Entre-temps, nous avons un calendrier qui est prévu
pour les élections.
Écoutez,
on doit revoir selon la recommandation, même si je ne voulais pas, on n'acceptait pas qu'on la
fasse. Dans un contexte où on nous dit qu'il n'y a pas d'argent, les recettes diminuent, est-ce qu'on va organiser deux élections pour élire des gouverneurs de province?
On va écouter quand même cette série des auditeurs. Gérard Monéditou, Jean-Pierre Aïssero et Eric Ambataka. Gérard, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste. Je salue également votre invité, le professeur Eric Ambataka. Je salue également tous les auditeurs de la société. Oui, mon point de vue et les questions que nous nous posons, nous ne sommes pas des juristes, nous sommes la population congolaise, nous sommes institutionnels. Et que nos juristes sont en train de dire. Alors, si j'ai bien suivi votre invité, il dit que la Cour, la CENI a demandé des choses à la Cour, c'est-à-dire de la suite de tout, c'est la vie sur le processus électoral de la Cour dans notre pays. Alors, il dit là-bas que la Cour s'est déclarée incompétente, elle ne pouvait pas donner cela, ça ne s'entend pas dans sa matière, la Cour, dans sa matière, la Cour, là, pour donner des arrêts. Bon, alors, nous posons des questions suivantes. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que la Cour rentre dans son chemin? Parce que, selon votre invité, il est en dehors de ce qu'il devait, la Cour est en dehors de ce qu'il devait faire. Donc, elle s'attache aux questions politiques qui ne sont pas justifiables, des choses pareilles. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que la Cour puisse travailler normalement? Alors, autre question que nous nous posons, pourquoi nos juristes, ceux-là qui sont n'arrivent toujours pas à interpréter nos lois et ou alors la Constitution de la même manière, pour qu'on ait le même langage. Pourquoi cela arrive? N'est-ce pas par mauvaise foi? Est-ce que nous aimons réellement notre pays? Mais l'essor maintenant de la population. Parce qu'ils sont en train de se tirailler, chacun interprète de sa manière, alors que cette Constitution ou bien ces lois-là ont été faites par le même juriste. Pourquoi est-ce que la Gion écrit cette constitution, qui a élaboré ces lois? Pourquoi ils n'arrivent pas à interpréter de la même manière pour que les choses avancent dans notre pays? Et si la CENI est bloquée, ça aussi c'est la CENI, si elle ne sait pas travailler, pourquoi ne pas prendre le courage de claquer la porte, de se déclarer incompétente, de dire c'est fini, nous ne pouvons pas travailler avec d'autres personnes? C'est comme ça qu'on peut voir les choses évoluer dans ce pays. Et c'est pourquoi les dialogues sont décriés et par la majorité présidentielle et par l'opposition avec des défaites à la tête est très important, ces dialogues-là. Pour qu'on courage. Nous comprenons, nous sommes dans une jungle terrible, monsieur le journaliste. C'est celle-là qui dirige ce pays qu'on prenne, la population souffre. Alors, autrefois, nous suivons les émissions de la FNC, tout ça, Yuan, nous suivons Digital Congo, tout ça, nous suivons Télé 50. Autrefois, nous avons suivi les porte-parole du gouvernement qui disait il y avait un pays frère qui voulait nous donner quelques sommes, une somme là pour l'organisation des élections. Alors, il avait dit mais nous avons nos mamans qui vendent les légumes au marché qui ont cette somme. Ça, c'était une somme maudite, c'était une insulte au peuple congolais, au gouvernement congolais. Alors pourquoi ne pas recourir à ces mamans-là qui ont l'argent
pour avoir des millions
de marchés pour organiser les élections? Et nous disons aujourd'hui, nous n'avons pas l'argent, alors que nous avons nos mamans au marché qui ont cet argent. Pourquoi nos mamans ne peuvent pas nous donner l'argent pour faire les élections? Voilà, monsieur le
président. Merci beaucoup, Gérard. Je crois que vos calculs, il y a même certains auditeurs qui nous ont écrit qui ont fait pratiquement le même calcul, 14 millions d'habitants pour la ville simplement de Kinshasa. Si nous prenons la population active, c'est-à-dire ces mamans dont vous parlez, qui font le commerce dans l'informel, qui peuvent chaque fois mettre de côté, même en une fois, un dollar, disons, pour les élections. Donc, s'ils sont 2 millions, je crois que même 500 000, donc ça peut déjà donner 1 million. Donc, on peut facilement trouver cet argent pour organiser les élections, selon ce que vous venez de dire, les propos que vous avez inspirés de propos du ministre des Communications et Médias lorsqu'il défendait le gouvernement par rapport au budget qu'il a, par rapport aux ressources qu'il a. Merci beaucoup, Gérard de Moineditou. Jean-Pierre, vous êtes à Issiro. Bonjour, Jean-Pierre.
Bonjour, bonjour à vous et bonjour à l'invité.
Voilà, nous parlons de recommandations faites au gouvernement de doter la CENI des moyens nécessaires pour l'organisation impérative de l'élection des gouverneurs et vice-gouverneurs des provinces nouvellement créées avant toute élection des députés provinciaux sur toutes les années de la République. Alors, d'aucuns estiment que cela constitue déjà un blocage, le fait que ça soit une conditionnalité pour la poursuite du processus. Est-ce que vous partagez cet avis?
Oui, moi je pense d'abord que les problèmes viennent de chez les chefs, comme venait de le dire le professeur, puisque nous supposons que les présidents de la République, avant qu'ils puissent avoir l'arrêt pour que nous puissions avoir les nouvelles provinces, il avait déjà prévu que nous allons avoir ces nouvelles provinces et que bientôt son gouvernement aura même les moyens pour organiser les élections. Mais il n'y a même pas longtemps, au nom de nouvelles provinces, on nous dit qu'il n'y a pas l'argent pour organiser les élections, ni plus que pour les gouverneurs. Alors que nous savons tous que l'organisation des élections du second degré est le moins cher de toutes les élections. Mais il s'agit de quoi? Il s'agit seulement d'une assemblée, une assemblée extraordinaire que les députés organisent, et à travers ça, on organise l'élection. Pourquoi on est en train de compliquer les choses? C'est clair, et les gouvernements que nous avons actuellement, on nous a dit que c'est un gouvernement des technocrates que nous n'avons jamais eu auparavant. Mais ce même gouvernement, il a ses budgets, il a les budgets où on prévoit, déjà pendant plus de 3 ans, on prévoit les élections. Et même les candidats aux élections provinciales, nous venons les candidats aux élections provinciales, nous venons de déposer nos candidatures et nous avons remis par parti politique des montants et qui est entré pour le compte des élections. Donc nous dire vraiment qu'il n'y a pas d'argent pour organiser les élections les moins chères de notre pays, qui se fait par les second degrés, c'est vraiment comme si on était en train de se moquer de nous, et pourtant nous tous nous voyons que ce sont des blocages qu'on est en train de créer. Mais en réalité, je pense que ce n'est pas là le problème. C'est que tout simplement le problème est qu'on veut prolonger les choses pour rien. Alors que tout est clair comme l'eau des roches.
Merci beaucoup Jean-Pierre. Vous avez évoqué quelque chose de très intéressant, parce que là, c'est vrai, les candidats à la députation provinciale, on lui a payé une caution, 500 000 francs congolais. Je crois que c'est le moment aussi d'auditer la CENI pour savoir si jamais elle se plaint pour ne pas avoir de moyens aujourd'hui pour organiser les élections. Mais qu'a-t-il fait de l'argent que le député, la caution non remboursable, je crois que ce n'est pas pour un prêt de fonctionnement de la CENI, mais c'était plutôt pour l'organisation, je crois, matérielle de ces scrutins. Parce que ça rentrait directement dans les trésors publics. Voilà, c'est une question que nous allons poser à notre invité tout à l'heure. Merci de l'avoir révélé. Eric, vous êtes en Bandaka. Bonjour, Eric. Eric, vous êtes avec nous en Bandaka.
Oui, je suis en Bandaka. Oui, allô, monsieur.
Voilà, allez-y. Vous êtes en ligne. Voilà, Eric, vous êtes en ligne, oui ou non?
Oui, je suis en ligne, monsieur.
Bah, allez-y, vous avez la parole, Eric. Vous avez la parole, Eric.
Oui, lorsque le professeur parle, nous les autres, nous devons l'écouter parce qu'il est le professeur. Alors, tout le monde comprend que PGD3, la CENI, la Cour constitutionnelle, ainsi que le gouvernement. Mais maintenant là, moi j'ai une petite question à poser à M. le professeur, parce que lorsque le professeur parle, nous devons écouter cet enseignement. J'ai une petite question. Excusez-moi, M. le professeur. L'arrêt est présent. L'arrêt est là. Avec beaucoup d'invulnérabilité de la Constitution. Il y a pas mal de violences, elle dit. Mais, dans ce niveau, quels sont des mécanismes de résolution pour pouvoir maintenir ou soit quels sont les mécanismes de résolution qui vont permettre à la population de s'apaiser par rapport à cette arène-là qui est composée avec beaucoup de violence et de la corruption.
Merci.
Voilà la petite question que j'aimerais vous poser à M. le professeur.
Merci beaucoup, Eric. Bintou, on va terminer avec vous. Bintou, vous êtes à Kinshasa. Bonjour.
Bonjour, JL. Bonjour à notre invité. Bonjour à tous les auditeurs.
Voilà, vous êtes le dernier auditeur de cette émission. Rapidement, qu'est-ce que vous avez comme point de vue par rapport à cette thématique? Rapidement, parce qu'on aura 2 minutes avec notre invité.
Merci, JL. D'abord, c'est une distraction de la CENI qui joue les jeux du pouvoir. Vous savez actuellement qui dirige la CENI, puisque malheureusement, il ne se voit plus. Il est le délégué du PPRD. Il ne sait pas faire autre chose. Bon, le gouvernement,
on sait que le vice-président, il est du PPRD.
La volonté n'existe pas. Il n'y a pas la volonté pour organiser les élections. Dire qu'il n'y a pas d'argent, ce sont des fausses déclarations et puis ce sont des mensonges que le gouvernement est en train de dire. Le gouvernement a l'argent. L'argent que la CENI a reçu dernièrement des candidats, c'est combien d'argent
distribué par la CENI? Voilà, il y a une autre chose.
Alors, en plus,
je demande, je ne sais pas. Dites-moi, excusez-moi, parce qu'il nous reste 2 minutes. Donc, ouais. Ce que vous avez dit, on a compris, s'il vous plaît, parce que notre invité doit conclure. Et puis, on reviendra encore demain, parce que nous continuons une série d'émissions sur l'arrêt. Et demain, on va revenir sur le budget, notre budget, parce que vous le savez, la session de septembre, elle est budgétaire. Et quel sera l'impact par rapport à cette session? Et parce qu'on dit toujours que notre pays est sans budget. Alors, ce sera le débat demain. Gardez votre mal en patience. Donc, prenez votre mal en patience demain. On va y revenir bientôt. Merci beaucoup hein, d'avoir appelé l'équipe PC. Professeur, on va conclure avec vous.
Oui. Merci. Je vais aller rapidement. C'est vrai que j'ai dit au début que cet arrêt a un problème en conflit total avec le principe du dispositif, parce qu'un juge ne peut pas statuer sur ce qu'on lui a pas demandé. Mais il y a plus que ça. Il y a le principe de la séparation des pouvoirs. Nous avons là le pouvoir judiciaire qui donne des injonctions au pouvoir exécutif, en dehors de tout cadre, etc. Donc c'est un problème, ça suscite encore beaucoup de débats. Mais non. Que faire? Eric a posé le bon problème, Gérard de Meneditto, Eric de Badaka, mais qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? C'est ça la solution. L'avenir, en fait. Que faire pour apaiser la population? Moi, je l'ai dit au début. Écoutez, nous avons un chef. L'État a un chef, président de la République. C'est lui qui a toutes les cartes en main. Qui peut apaiser la population, prendre des décisions qui s'imposent pour qu'on aille de l'avant. Et pour moi, je l'ai dit, ça, ce sont mes réflexions personnelles, je ne donne pas des conseils ou des propositions. L'article 69 de la Constitution permet au président de la République, dans le contexte actuel, n'est-ce pas, d'assurer la continuité de l'État dans les provinces où il y a des problèmes. Il faut prendre des mesures transitoires, actuelles, des nominations, des gouvernements en fonction ou d'autres formules. Et non seulement ces nominations, mais il faut prévoir aussi une bonne ligne circulaire administrative, parce qu'il y a un problème d'administration. Le gouvernement dit que ces provinces ne sont pas administrées. C'est très grave, ça. Qu'il y a des menaces. C'est très grave, il ne faut pas rire devant ce type de situation. Donc il faut agir vite pour que ces provinces soient gouvernées. Oui. Et c'est le président qui a le mot et qui a le pouvoir. J'ai entendu tout ce qui a été dit au sujet du processus électoral. C'est vrai que ce processus est en panne. Il faut le réparer. Donc, indépendamment des critiques que nous avons adressées à la CENI ou à la Cour constitutionnelle, de s'occuper des questions politiques, parce que ces questions ne sont pas justiciables, je le répète. La Cour suprême, je peux donner un exemple pour passer, la Cour suprême de justice a été saisie d'un cas similaire. Le conflit Tshisekedi et Kengo Wadondo à l'époque de Mobutu. Mobutu prend une ordonnance pour nommer Kengo. Le procédé, non, ce n'est pas Kengo qui devait être nommé, c'est Tshisekedi. On est allé à la Cour suprême de justice. Et la Cour a dit, ça c'est une question politique que je ne peux pas trancher, c'est une question de gouvernement. Et donc, il faut éviter ce type de dérapage à l'avenir et il faut appliquer la Constitution. L'article 69 permet au président de calmer la situation et d'assurer la continuité de l'État. Le fonctionnement régulier des institutions et du pouvoir public dans les provinces concernées.
Professeur Tshibangu Kalala, merci d'avoir été des nôtres. C'était un grand plaisir de vous recevoir dans ce studio. Merci à Eric Tshibangu qui était à la technique. Pierrot et la Végie a assuré donc la réalisation de cette émission. Julie César était au standard. Et Gilles Nguyen voyait le plaisir de coordonner et de présenter ces débats citoyens. On se retrouve demain dans un autre numéro. D'ici là, portez-vous bien et bonne suite des programmes sur Okapi.